à Aix, et donc je passe la parole à Alain Kierman.
Est-ce qu'on peut juste basculer le...
J'ai basculé.
Ah, magnifique. Merci. Voilà, je vous remercie. Et certaines des choses que je dis vont avoir une intersection assez importante avec ce que Jean-Luc Caffa a déjà dit. Mais peut-être il y aura aussi des choses qui sont un peu en contradiction aussi. Parce qu'il avait parlé de conflits, de résoudre des conflits, donc il faut quand même avoir quelques désaccords. Bon, première chose, c'est, je pense, c'est la question qu'on se pose au départ, c'est toujours à quoi sert une formation en sciences économiques. Quand on voit que quand j'ai commencé mes cours à Aix au départ, j'avais 800 étudiants en premier cours d'économie, c'était comme être au théâtre, on n'avait pas de projecteur, etc. C'était magnifique, mais évidemment, c'est impossible parce qu'on ne peut rien écrire au tableau. Et donc, j'ai donné pour les copies. Après ça, j'avais 100 étudiants. Et ça marchait. Mais maintenant, on a beaucoup, beaucoup moins d'étudiants en économie. On peut s'interroger à pourquoi. Je pense que si on demande à un étudiant, qu'est-ce qu'il dit ? Il va dire, ce que je veux avoir, c'est une formation qui me permet à comprendre les phénomènes économiques. C'est une idée très simple, je pense que ça serait le but. Mais si on dit ça quand on présente un séminaire dans une bonne université avec des étudiants doctorat, et on vous dit, vous dites que ce qu'on veut faire avec une formation en économie, c'est de comprendre les phénomènes économiques, ils disent pas du tout, non, c'est de publier dans les bonnes revues, hein. C'est pas du tout de comprendre les phénomènes économiques. Hein. Et je pense que quelque part, on perd un peu de vue le but original. Et ce que je trouve qu'en regardant les cours dans notre université et ailleurs, c'est que la plupart des cours de base semblent être le début d'une préparation pour une formation, pour une carrière en recherche en économie théorique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, mais j'ai devant moi des gens de toutes sortes différentes, je commence tout de suite avec un cours qui est un peu dur, mais souvent fait par des gens qui ne sont pas extrêmement techniquement compétents. Et finalement, on résout ce problème en donnant des cours qui ne semblent pas être très, très intéressants pour les étudiants. Voilà, par exemple, ça c'est un cours MICO, classique. Et première année, vous voyez au milieu, « Then a miracle occurs ». Et puis on passe aux deuxième équations. Et pour la plupart des étudiants, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on écrit tout ça au tableau parce que le professeur, qui n'est pas particulièrement doué techniquement, il veut montrer qu'il est capable de faire ça. Et le professeur qui a des capacités techniques a tendance à se replier sur les armes qu'il connaît bien. Et donc ça, c'est pour moi au moins, ce n'est pas à une façon vraiment de donner des cours en économie, d'intéresser les gens à l'économie dès le départ. Et ils sont choqués par ça, sauf les très bons, qui ont souvent une formation en maths plutôt, et eux, ils survivent. Mais la plupart des étudiants, ils ont beaucoup de difficultés à identifier la réalité économique dans ce qu'ils voient dans leurs cours. Et en particulier, de nos jours, avec la crise économique, quand les étudiants vont dans un bon cours de macroéconomie, ils ont énormément de difficultés à identifier dans les modèles les sources et la nature de la crise actuelle. Mais nous, on résout ce problème très simplement. On élimine à peu près 75% des étudiants après la première année. Et ça, c'est une façon de sélectionner, mais qui me semble être une sélection tardive, hautement inefficace et pas du tout contraire à ce que les gens disent. Elle est égalitaire parce que c'est une façon de gaspiller une année pour beaucoup d'étudiants. Et comment est-ce que donc on peut confronter ce problème-là? Et je pense que d'abord, la pédagogie dans nos universités n'est pas très bonne. Et un ami économiste mathématicien, Werner Hildenbrand, m'a dit un jour, si jamais on enseignait l'économie comme mes manuels de golf, ça changerait le monde. Parce que là, on explique où placer les pieds, comment faire. Et c'est extrêmement bien expliqué. Et dans nos manuels, ce n'est pas du tout extrêmement bien expliqué. Je pense que les manuels américains sont quand même mieux faits et maintenant, souvent, on les utilise en traduction ici, même si on n'est pas d'accord nécessairement avec le contenu. Quand même, on voit que l'effort de pédagogie est beaucoup plus important. Et un ami, David Callender, qui est auteur d'un livre qui vend une quantité incroyable aux États-Unis, un manuel, lui m'a dit qu'il pense que 10% des gens qui actuellement disent qu'ils font de la recherche en économie devaient le faire et les autres devaient se consacrer à améliorer leur enseignement. Et lui dit qu'en faisant ça, on augmenterait beaucoup la qualité à la fois de la recherche et de l'enseignement. Mais en France, on a décidé que tout le monde est qualifié d'enseignant-chercheur, peu importe ce qu'il fait ou où il est dans l'université. Et maintenant, ça m'amène directement à un sujet qui n'est pas un sujet qu'on est censé aborder en public en France, mais étant donné que j'ai des origines un peu perfides, je peux continuer. Et c'est le mythe de l'université standard en France. Et étant donné que l'université est la même partout, et on entend des ministres qui disent « mais mon diplôme de droit de l'université de Clochemerle est exactement équivalent à ça de le diplôme de Paris 2 », donc le diplôme est national, donc l'université standard partout, et toutes les universités sont censées, par conséquent, accueillir des étudiants de niveau et d'ambition très différentes. Mais conséquence, étant donné que tous ces étudiants sont ensemble, l'enseignement ne convient pas à la grande majorité des étudiants. Malgré les grands efforts de certains de mes collègues, je pense que c'est quasi impossible de donner un cours de première année aux gens qui ont comme ambition de sortir en 2 ou 3 ans et d'autres qui veulent aller jusqu'au doctorat. Et souvent, quand je regarde des collègues, soit ils mettent le bar très bas, soit ils mettent ça tellement haut que les gens disparaissent, soit ils oscillent entre les deux. C'est-à-dire un cours difficile, un jour moins difficile, etc. Mais qu'est-ce qu'on demande des universités? De produire la recherche, des études, de faire des études courtes, des cycles longs, et en plus garantir aux étudiants qu'ils ont quand même place sur le marché du travail. Et je trouve que cette notion de l'université uniforme n'est pas une solution, même si on dit que c'est à une solution démocratique, mais je ne suis pas entièrement d'accord. Et la solution que je pense serait de permettre aux universités de se différencier, aux étudiants de choisir leur université en fonction de ce que l'université propose, et aussi, et ça c'est le sujet chaud, les universités de sélectionner les étudiants plutôt de les sélectionner au départ honnêtement et ouvertement que de sélectionner après la première année en éliminant les étudiants qui n'ont pas eu la première année. Mais si on fait ça, pour que ça soit acceptable, il faut mettre en place un système de bourse beaucoup plus complet et adéquat que le système aujourd'hui. Sinon, celui qui n'a pas dans son université locale ce qu'il recherche ne peut pas partir à Paris. Contraire au système actuel où les gens savent très bien que certaines universités sont meilleures que d'autres et donc ceux qui ont les moyens partent dans ces universités-là et les autres restent dans leur ville d'origine. Et je pense que le coût de ces systèmes de bourse pourrait être en partie avec aussi des prêts, mais des prêts à taux zéro et remboursables si l'étudiant est capable de les rembourser. Mais à ce moment-là, si on permettait aux étudiants d'aller ailleurs avec des bourses, le coût qu'on a économisé, le coût de ce système d'échecs de première année où on passe tout ce temps à former des étudiants, la plupart qui vont pas réussir, à ce moment-là, on aurait les universités différenciées, les étudiants qui trouvent ce qu'ils veulent, un taux d'échec beaucoup moins important et un appariement entre la qualité de l'université, le type d'université et le type d'étudiant. Je passe rapidement à un exemple, parce que typiquement, et je pense qu'avec raison, le système américain est très critiqué, mais je signale simplement que l'Université de Californie, qui est un système entièrement public et consiste de 3 types d'universités, l'Université de Californie avec Berkeley, UCLA, etc., les endroits très connus, très focalisés sur la recherche, avec une formation de haut niveau. California State University, qui est quelque chose à un niveau moins académique, moins général, et plus orienté vers une formation technique. Et puis les California State Colleges, qui sont destinés à donner des formations courtes, avec l'objectif de trouver un boulot rapidement. Le taux d'échec est assez limité. Il y a des passerelles entre les universités. Et contraire à ce qu'on dit, on peut passer assez facilement. Berkeley reçoit plus que 1000 étudiants des autres deux parties de la structure chaque année. Et les cours d'économie proposés par conséquent dans ces universités sont très différents. Et ça doit être comme ça. Je pense que quand, à un moment donné, Jean-Luc avait dit qu'on est obligé de donner une formation assez technique qui peut être utilisée tout de suite parce que c'est ça que les entreprises recherchent, dans d'autres pays, ce qu'ils regardent aussi, c'est la qualité de l'université. Si vous venez d'une bonne université, même si vous avez fait une formation qui n'est pas directement applicable, ça, c'est déjà quelque chose qui est utilisable, c'est un signal. Et donc, quelqu'un qui vient de Berkeley risque de trouver un poste dans une entreprise, même s'il a fait son cursus en philosophie. Donc, ce n'est pas vrai nécessairement qu'on doit fournir exactement ce que l'entreprise recherche. Il faut aussi essayer d'avoir une réputation comme université qui permet aux étudiants d'être reconnus comme étant excellents. J'ai combien de temps en total? J'ai pris 11 minutes pour l'instant. Donc, deuxième chose, la recherche en économie. Encore un sujet délicat. Et pour moi, c'est un système, le système français est un système très ambigu. C'est très peu lisible de l'extérieur, très peu satisfaisant pour ceux qui sont à l'intérieur du système. Le CNRS est censé, et là, j'espère qu'il n'y a pas trop de chercheurs CNRS dans la salle, parce que déjà, ils ont été un petit peu agressés par Jean-Luc, ils vont être agressés une deuxième fois. Le CNRS est censé être le porte-drapeau de recherche en économie, mais je note simplement en passant que parmi les 20 premiers chercheurs classés dans un classement qu'on peut contester, ce n'est pas un organisme international, mais des 20 premiers chercheurs en France ou avec une affiliation principale française, un seul est un chercheur CNRS. Les autres 19 sont toutes sortes de choses, ingénieurs des ponts et chaussées, directeurs de l'INSEE, professeurs à l'université, plus de professeurs à l'université dans les 20 premiers que chercheurs CNRS. Et peut-être je dis encore une fois une chose qui n'est pas tout à fait catholique, c'est que les laboratoires CNRS, je pense, existent essentiellement de nos jours pour donner une étiquette de qualité dans un monde très homogène. Donc, on trouve une unité et on dit, ça c'est une UMR CNRS, donc là c'est un centre d'excellence. Mais pourquoi pas différencier les universités au point où on a des départements d'économie. Et les départements d'économie sont reconnus comme étant excellents ou non et reçoivent des fonds par conséquent. Évidemment, on ne peut pas simplement dire mais on va garder le système universitaire exactement comme c'est et puis on va pousser tous les gens du CNRS dans l'université parce qu'actuellement l'université est un endroit peu attirant pour les chercheurs CNRS. Mais je pense que ça pourrait changer. Mais je vois difficilement l'intégration du CNRS en économie, dans l'université, sans une réforme plus importante de l'université. Une solution possible, intégrer les chercheurs CNRS dans les universités, on donne une charge d'enseignement réduite, pas parce que l'enseignement n'est pas important, mais simplement parce que s'ils vont consacrer du temps à la recherche, c'est nécessaire de passer moins de temps sur l'enseignement. Et pour ceux qui font de la recherche réellement, ce statut serait maintenu. Et pour les autres qui ne font pas de la recherche, ils retrouveraient le statut de professeur ou maître de conf dans les universités. Et par contre, ceux qui sont actuellement professeurs ou maître de conf qui font de la recherche auraient la possibilité de passer un temps au CNRS comme chercheur en économie. Les problèmes de lisibilité, vous avez lu sans doute un article dans Le Monde où on a dit notre classement dans Le ranking de Shanghai est tout à fait absurde parce qu'on ne tient pas compte du fait que les gens sont dans les labos, ils sont aussi dans les universités, donc la moitié du crédit va à l'université. Mais la solution de ça, à ça, c'est très simple. Si on intègre les labos dans les universités, à ce moment-là, on déclarerait que l'université et ce problème sera résolu. Évidemment, je ne vois pas pourquoi un directeur de recherche employé par le CNRS, qui est dans un labo attaché à Jussieu, devait dire « Mais moi, je suis employé par Jussieu, donc vous devez donner tout ma production de recherche à Jussieu. » S'il était réellement dans le département d'économie à Jussieu, c'était tout à fait normal. Mais on a une aberration actuellement où on dit « Mais les gens sont CNRS, ils sont dans un labo. » Mais une fois qu'on fait ça, notre place dans le ranking de Shanghai descend parce qu'on divise par deux la quantité de recherche qu'apparemment est faite à l'université, par exemple, de Jussieu. Deuxième problème. Je vais aller plus rapidement. Le contenu de l'enseignement. Là, j'ai parlé de la structure de nos institutions, mais le contenu de l'enseignement. Quelqu'un avait dit, c'est Niels Bohr, je pense, que la physique, c'est ce que les physiciens font. Et donc, on pourrait dire la même chose. L'économie, c'est ce que les économistes font. Mais dans ce cas-là, si c'est vrai, on ne peut pas éviter, au départ, de donner à nos étudiants au moins une indication claire de ce que les économistes font. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter l'économie standard parce qu'on n'aime pas ou parce qu'on est critique. Il faut quand même donner une formation de base dans les principes simples de l'économie standard, même si on est très critique en le faisant. Et il faut montrer les difficultés avec les modèles, les hypothèses, et suggérer des remèdes, mais on ne peut pas, je pense, passer par la voie où on dit « je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais, et puis je vais vous enseigner autre chose ». Et autre chose, souvent, n'est pas quelque chose qui est un vrai paradigme qui peut être utilisé. Première chose que je remarquerai, c'est que le rôle de l'histoire, à mon époque, on était obligé de suivre des cours d'histoire des faits, et histoire de la pensée. Maintenant, on dit que c'est absolument stupide, c'est vieux jeu, mais je pense qu'en réalité, les deux choses sont importantes dans un cursus en économie. La première, parce que les étudiants doivent comprendre que l'économie même est un système en évolution constante, et si on n'a qu'un snapshot à une certaine époque, on ne voit pas l'évolution de l'économie. Et deuxième, je ne pense pas que c'est utile de enseigner l'histoire de la pensée comme un genre de guerre des écoles, expliquer chaque école, mais plutôt pour montrer que la perception des économistes est en évolution constante aussi et que c'est important de voir la montée et descente de certaines visions de l'économie et la tension entre les différentes approches. Autre chose, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les universités françaises, mais certainement dans les deux que moi j'ai fréquentées, on n'a pas obligé les étudiants, à un moment donné, dans leur cursus, de prendre des données eux-mêmes, de collecter des données, faire une analyse de ces données empiriques, et puis essayer d'expliquer quelque chose. Donner une explication pour ce qu'ils voient, des faits stylisés qu'ils perçoivent, et essayer de construire au moins certaines hypothèses pour expliquer ça. Et je pense que c'est un exercice qui est extrêmement utile. Le bon étudiant a tendance à aller directement vers les modèles. Le mauvais étudiant est un peu ennuyé. Mais je pense que simplement l'expérience de collecter les données, par exemple sur un marché, le marché de poissons de Marseille, si vous voulez, mais, ou n'importe quel marché, ou simplement de collecter les données, les analyser, regarder comment ce marché, par exemple, ou d'autres choses, fonctionne, est très utile et très formateur pour un étudiant. Autre chose, je pense que quelquefois, dans certains cours, on a l'impression de donner les certitudes. C'est Walras qui a dit dans une lettre à Hermann Laurent, un mathématicien, il a dit, vous pouvez être sûr, chers collègues, que les équations que j'ai écrites auront la même valeur, la même fiabilité que les équations de l'astrophysique. Et ça, vous allez voir. Et donc, ça, c'est des certitudes que je pense que pour la plupart d'entre nous ont longtemps disparu. Et son successeur à Valras, à Pareto, qui est considéré comme quand même le fondateur de l'école moderne néoclassique, lui a passé la deuxième partie de sa carrière à expliquer, et ce qu'il a dit précisément, c'est que les hommes passent leur temps à prendre des décisions irrationnelles et ils restent leur temps à rationaliser ces décisions. Donc Pareto était très sceptique quant à la rationalité dans le sens que nous l'utilisons et de nos axiomes. Mais curieusement, ces axiomes ont pris une place extrêmement importante. Donc quand on dit rationalité, on ne dit pas rationalité dans un sens général, on dit rationalité comme nous l'avons défini. Mais on sait très bien que c'est essentiellement dû à l'introspection des économistes. Ce n'est pas dû aux observations du comportement des gens. Et c'est pour ça que plus tard, on a eu la révolution de l'économie expérimentale et comportementale. Mais ce serait un peu triste d'être ici et de ne pas suggérer au moins des voies qui me semblent être prometteuses. Donc, moi, je vois, par exemple, l'économie expérimentale, malgré le fait que les conditions sont artificielles, etc., comme étant quelque chose qui nous a appris beaucoup sur les choix des individus. L'économie comportementale aussi, avec l'appui de la psychologie, Danny Kahneman et compagnie. Et je pense que ça contribue beaucoup à notre compréhension. Je mettrai aussi là-dedans même la neuroéconomie qui est devenue très à la mode, mais pas parce qu'on va avoir un genre de carte du cerveau où on peut dire ce genre de décision est prise là, ce genre de décision est prise là, plutôt parce qu'on voit très bien que dans certaines circonstances, c'est certains réseaux de neurones qui sont activés et dans d'autres circonstances, des réseaux différents. Et donc, si c'est le cas, par exemple, sur les marchés, les gens réagissent, il y a beaucoup d'évidence maintenant, assez émotionnellement dans certaines situations. Si c'est le cas, on ne peut pas imposer ce qu'on impose toujours comme économiste, ce qui est une rationalité intertemporelle, très stricte. C'est-à-dire que mes décisions doivent être cohérentes dans le temps. Et ils ne sont pas nécessairement si j'agis avec des réseaux de neurones différents dans différentes circonstances. L'économie comme système complexe, le soi-disant approche de l'économie-physique qui est beaucoup décriée par pas mal de mes collègues, mais il ne faut pas oublier que notre héritage de modèle est un héritage directement de physique, mécanique classique. Et donc, je pense que c'est quand même utile d'envisionner envisager l'économie comme un système complexe qui est constamment en train de changer. Et les acteurs ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe au milieu. Et ce système s'auto-organise. Et quelquefois, c'est susceptible d'avoir des changements de phase, des changements au niveau macro très importants qui ne sont pas du tout dus à des mouvements radicaux chez les individus. Et puis, on a déjà soulevé le problème de comportement micro versus comportement macro. Et la première personne qui a dirigé mon travail comme graduate student à l'Université du Minnesota était Hugo Sonnenschein. Et quand je lui ai dit, après un semestre de maths et de micro très dur, j'ai dit, mais Hugo, moi, je veux être un économiste, je veux étudier l'inflation, le chômage, des choses. Il a dit, non, ça c'est macroéconomie. Ça, pour ça, il faut de la sagesse. Microéconomie, c'est de l'analyse. Macroéconomie, c'est de la sagesse. Donc, ça, c'est pour plus tard. Et donc, dans un certain sens, ce qu'on a vu, c'est que on a commencé maintenant, on est arrivé à l'étape où on a créé des modèles macroéconomiques qui sont d'une sophistication assez remarquable. Et Bob Solow récemment a dit, mais c'est quand même curieux, les gens doivent être quand même un peu maso pour construire des modèles qui sont tellement loin de la planète où on vit qu'on ne sait pas même où on est quand on regarde ces modèles. Et le modèle de macroéconomie moderne était dans un certain sens la réponse à Hugo Sonnenschein parce que c'est construit sur la base d'un individu, mais un individu ultra sophistiqué avec des armes mathématiques splendides. Et je pense que cette vision de macro, qui est une vision mathématique, mais très d'un individu représentatif, est très loin de ce qu'on doit faire comme modèle macro. J'espère qu'il n'y a pas trop de macroéconomistes dans la salle. Mais je pense que si on tient compte des interactions directes entre les individus dans une économie, et pas seulement à travers le marché, on arrive à un système qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, beaucoup plus complexe. Mais à ce moment-là, on arrive à reproduire des bulles, les cracks, les effets de mode, les transmissions d'informations. Toutes les choses qu'on dit maintenant sont à la base des crises qu'on voit, et la crise qu'on voit en particulier en ce moment. Par exemple, passage d'informations. On connaît les modèles de ce qu'on appelle les cascades informationnelles. Pourquoi est-ce que l'hypothèse de marché efficace en finance ne marche pas? Précisément parce que les gens infèrent de l'information des actes des autres. Et une fois que ça arrive, on peut arriver dans une situation où l'information est perdue. Ça, je vous illustre ça rapidement. Une expérience a été faite à Times Square. Et 20 étudiants se sont mis au milieu, ils ont regardé le ciel comme ça. Et après 5 minutes, il y avait 1000 personnes qui regardaient le ciel. Parce que si les 20 regardaient le ciel, il y avait quelque chose à voir. Ils ont inféré le fait qu'il y avait de l'information là-haut. Donc il y avait quelque chose. Donc tout le monde regarde là-haut. Et ça, c'est exactement l'idée d'une cascade informationnelle. Quelqu'un qui fait quelque chose et les autres commencent tout de suite à dire « Ah, mais parce qu'il a fait ça, il y a de l'information. » Je vous illustre ça avec un... chose. Okay. C'est pas, sans doute vous avez vu ça avant, mais c'est un dessin assez connu. Le type ici dit ah, this stock could really excel. Et puis, really excel, excel, sell, sell, sell. Et puis finalement, ce type ici en bas, il en a marre, il dit mais maintenant j'en ai marre de ça. Goodbye, goodbye, bye, bye. Évidemment, c'est stupide, les gens. Regardez les visages des gens là, dans les marchés. Ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas émotionnels. Ils calculent, tout est rationnel. Regardez. On peut voir quand même une ressemblance. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que ce genre de considération est très important en économie. Cette interaction, le fait que les gens infèrent des informations des autres, et on peut le modéliser. Je ne suis pas là pour dire que ah, ça c'est purement irrationnel. Ce n'est pas du tout irrationnel en général. Le fait que je suis quelqu'un d'autre parce qu'il fait quelque chose n'est pas du tout irrationnel. Je suis presque à la fin. Si j'avais à proposer un paradigme pour l'avenir, je dirais qu'il faudrait introduire nos étudiants et peut-être nous aussi à l'idée de l'interaction et complexité. On peut dire, mais c'est juste un phénomène de mode, parce que vous dites système complexe ou complexité, vous allez avoir des sous pour la recherche. Mais en réalité, je pense que c'est une vision d'une économie qui est plus réaliste que la vision des individus isolés qui sont liés que par le marché. Et les systèmes complexes sont caractérisés par les agents qui sont interactifs entre eux. Mais les agents ont des règles très simples, pas du tout comme certaines des règles dans les modèles qu'on construit. Mais c'est l'interaction entre les agents qui engendre des effets qui sont au niveau agrégé vraiment très compliqués en comparaison avec ce que les individus font. Je passe 30 secondes à vous donner un exemple. Les abeilles. Les abeilles veulent garder la température de la ruche à une température constante. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils poussent l'air à travers la ruche. Donc, quand la température monte, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent pousser plus d'air. Donc, le macroéconomiste, il regarde ça, il dit, ah, mais je vais vous expliquer tout de suite. Vous prenez l'abeille représentative et vous allez voir que quand la température monte, il bat les ailes, elles, de plus en plus rapidement. Et ça va forcer de plus d'air à travers la ruche. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça arrive. En réalité, ce qui arrive, c'est que chaque abeille a un seuil de température. Et il est soit on, soit off. Et si la température monte, plus d'abeilles sont on et donc génèrent plus d'air. Donc, chaque individu a une règle discontinue extrêmement simple, mais ensemble, ils engendrent un phénomène qui est une réponse au changement de température assez sophistiqué au niveau agrégé. Mais les individus sont vraiment très simple et très limité. Et si vous ne me croyez pas, mettez-vous à côté d'une ruche quand la température augmente. Si le macroéconomiste avait raison, et tous les abeilles battaient les ailes de plus en plus rapidement, vous entendrez zzzz. Mais en réalité, non, vous entendez tous zzzz. C'est toujours le même niveau. Donc, c'est toujours le même battement des ailes. Donc, je passe rapidement. Donc, je pense que donc, si on a une conception de l'économie plutôt comme un système complexe, on peut diminuer le niveau de rationalité qu'on impose sur nos agents, mais on doit attendre à des mouvements très radicaux à un niveau agrégé. Mais je pense qu'on doit voir l'économie plutôt comme... comme ces gens-là, c'est-à-dire, vous ne pensez jamais à l'idée d'interpréter l'organisation, la structure d'une fourmilière à partir de la fourmi représentative. Mais ensemble, l'organisation et le résultat est très complexe et très efficace. Donc, les éléments de base de l'autre vision, c'est simplement qu'on met les effets externes, c'est l'interaction entre les individus, au centre de l'économie, plutôt comme des imperfections dans le modèle. Le réseau qui lie les agents devient très important, et vous voyez ça de nos jours dans les discussions sur la crise actuelle. Le réseau des banques qui, dans un certain sens, cesse de fonctionner à un moment donné, on attribue moins d'intelligence à nos agents et les règles émergent. Et comme je vous ai dit, le réseau d'interaction devient très important. Donc, mes deux conclusions sont, pour la première partie, il faut réformer notre système universitaire si nous voulons donner des formations en économie qui soient compatibles avec les attentes et besoins des étudiants et qui favorisent la recherche en économie en France simultanément. Et nous devons fournir des formations qui incorporent non seulement les modèles standards d'économie, on ne peut pas simplement les abandonner, mais aussi les innovations récentes. Et pour ça, les enseignants doivent passer leur temps aussi à rester au courant de ce qui se passe. Et il faut accepter l'idée que le système économique que nous étudions est en évolution constante et que les modèles d'hier ne seront pas adéquats demain. Merci.
Merci Alan. Donc, je vais maintenant donner la parole à ceux qui ont accepté d'introduire la discussion, évidemment beaucoup plus brièvement que les deux exposés principaux qui ont eu lieu. Je commence par Patrick Artus.
Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. Volontairement, je vais faire une rupture très violente avec ce que Jean-Luc a annoncé, puisque je vais prendre non pas du tout un point de vue d'enseignant, que j'aurais pu prendre, mais un point de vue d'employeur sur la formation des économistes. Mes collègues ici développant largement le point de vue de l'enseignant. Et en plus, le point de vue d'employeur dans un endroit particulièrement désagréable, puisqu'il s'agit d'une banque d'investissement, ce qui sans doute a quelques liens avec ce que vient de dire Alan Kerman. Alors, très, très rapidement, je crois deux choses. Dans le débat, finalement, faut-il une économie pour les enseignants-chercheurs, les spécialistes professionnels de l'économie? Faut-il un enseignement d'économie pour les entreprises? Je crois que la vision d'un employeur en banque me semble être que même dans une banque, on a besoin de faire de l'économie compliquée, très proche de la recherche fondamentale dans certains cas, qui n'est pas une économie particulière, je dirais, par rapport à l'économie de la recherche académique. Quelques exemples de ce que nous faisons dans ma banque. On ne peut pas travailler sur les entreprises sans se poser des questions d'économie industrielle. Structure de la concurrence, formation des prix, stratégie des entreprises, recherche, stratégie d'innovation. On ne peut pas travailler sur les marchés financiers sans travailler sur des problèmes de formation des taux de change, avec toutes sortes de bizarreries. Et Alan sait qu'il y a maintenant des modèles, par exemple des anomalies sur le marché des changes qui sont des modèles comportementaux, des modèles qui expliquent que les lois normales ne sont pas vérifiées. On ne peut pas travailler dans les marchés financiers si on ne ne connaît pas la théorie des risques, les problèmes d'allocation de portefeuille, bien entendu des choses de la macroéconomie traditionnelle, mais c'est finalement peu important. Et récemment, beaucoup de choses, effectivement, qui sont proches de la finance comportementale, hein, sur la formation des anticipations sur les marchés, les processus mimétiques, les ruptures dans les équilibres de marché, les ruptures dans les volatilités, par exemple, qu'on observe sur les marchés financiers, et qui sont liées à des phénomènes de propagation, de croyances. Enfin. Donc je ne crois pas, et peut-être que les banques sont particulières, peut-être que les besoins de l'industrie sont un peu différents, mais je ne crois pas que nous ayons besoin d'une économie différente de l'économie qui est l'économie académique ou qui est l'économie pour ceux qui vont faire des carrières d'enseignants-chercheurs. Et si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais vous raconter ce que nous faisons, qui dans certains cas est effectivement de l'économie semble assez standard en termes de recherche aujourd'hui. Un autre exemple, nous vendons par exemple c'est de l'horrible spéculation, mais nous vendons des fonds liés au droit à émission de CO2. Vous ne pouvez pas imaginer que vous faites ça intelligemment si vous ne savez pas comment ça marche, les ressources épuisables, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas suivi les cours de Roger sur le développement durable. Enfin, donc voilà, nous avons besoin de vraies économies. Deuxième point, dans les jeunes gens que nous récupérons dans la banque, le problème essentiel pour nous, c'est l'absence de multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'on peut embaucher des économistes après des thèses ou après des masters, souvent extrêmement brillants. On peut embaucher des gens qui ont fait de la finance, qui savent valoriser des options look-back tordues dans tous les sens, en vous optimisant tous les algorithmes. On peut embaucher des économètres qui sauront faire des choses extrêmement compliquées en panel ou avec des variances bizarres. On peut embaucher des gens qui connaissent assez bien la gestion de la fiscalité. Il y a extraordinairement peu de gens qui savent faire deux de ces choses. C'est-à-dire des financiers qui savent faire de l'économie. J'y reviendrai parce que je crois que c'est très important aussi aujourd'hui. Des économètres économistes, ça existe un peu plus encore que des gestionnaires économistes. C'est extrêmement rare. Le financier économiste, je crois que c'est une espèce rarissime. Et ceci est un des problèmes, je crois que Jean-Luc en parlait tout à l'heure. On juxtapose des gens qui regardent des actifs financiers du simple point de vue du modèle mathématique de valorisation. Et donc, des élèves de Nicole El-Karoui, pour la dénoncer, qui sont extraordinairement sophistiqués dans leur capacité à valoriser des options très, très compliquées. Et à côté de ça, des gens qui vont avoir une vision de l'environnement économique du marché dont il s'agit. Bon, marché d'actions, par exemple. Et il n'y a strictement aucune interaction. C'est-à-dire que les modèles qui sont utilisés pour valoriser les options, ou les ABS, par exemple, les produits titrisés, qui sont au centre de la crise, les modèles n'ont strictement aucun input économique. C'est purement des modèles d'arbitrage. On sait que c'est des modèles d'interpolation compliqués. On a l'actif A, l'actif B qui ont un prix de marché, on fabrique un actif C terriblement compliqué, et par interpolation compliquée, par rapport aux deux actifs pour lesquels on a des prix de marché, on va valoriser l'actif C. Ça ne dit rien sur la possibilité que le prix de l'actif C s'effondre, que son risque augmente, que le marché de l'actif C perde toute sa liquidité, qui est lié par contre à une évolution économique sur la rentabilité des entreprises, l'aversion pour le risque, l'environnement fiscal. Et on est totalement incapable, dans l'état actuel de nos connaissances, de construire des modèles d'évaluation des actifs financiers qui incorporeraient de l'économie. Et donc ce sont des modèles purement statistiques, donc on cale des processus sur le passé, y compris des processus extrêmement complexes, multidimensionnels, avec des structures de variance-covariance compliquées. Ça marche bien sur le passé, ça marche strictement pas sur le futur, et en tout cas il y a des ruptures qui font que ça marche plus. Ces ruptures sont liées à des évolutions économiques, et là on a un problème terrible de dialogue entre les gens qui savent valoriser ces actifs compliqués et les gens qui essaient de comprendre pourquoi il y a des ruptures dans le fonctionnement des marchés. Et donc, je crois que si on veut éviter que les crises... Et finalement, la crise, c'est quand même ça, fondamentalement. C'est l'absence totale par les gens qui ont des cultures de financiers mathématiciens, de compréhension de ce qui, dans l'environnement, peut fabriquer une rupture dans le fonctionnement des marchés, dans la valorisation des actifs, dans le risque. Et à nouveau, l'incapacité absolue à le modéliser conjointement, c'est-à-dire des modèles à la fois de l'environnement économique et de la valorisation financière. Et à nouveau, les individus qui sauraient faire ça sont strictement rarissimes. Donc je pense qu'il y a vraiment un... Au-delà d'enseigner l'économie, je crois qu'il y a un problème qui est d'enseigner l'économie et quelque chose. Hein, et à nouveau, qui peut être les maths, qui peut être la finance, qui peut être la gestion, qui peut être la sociologie, hein, pour tous les problèmes que nous avons de comportement, et pas d'enseigner uniquement l'économie, ce qui assez souvent n'est pas suffisant, nouveau, vu du point de vue... petit et utilitariste d'un employeur qui essaie de travailler à peu près correctement.
Merci Patrick. Tu as été très court, mais tout le monde sait qu'on aura l'occasion de le réentendre tout à l'heure lors de la grande séance qu'il y aura dans cette salle sur les crises financières. Monsieur Pradier.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Patrick, parce que c'était l'économie en complément des autres enseignements. Et justement, le problème que repérait Jean-Luc, qui était celui de la massification, le laissait un peu pessimiste. La recherche est maintenant en disjonction avec l'enseignement. Les étudiants que forment les facultés d'économie ne sont plus des cadres. Mais c'est une évidence, mais une évidence positive. C'est le résultat du fait que nous avons su donner à 50%, enfin, ou nous allons savoir donner à 50% d'une classe d'âge le capital humain ou la formation qui était le privilège d'une élite à la génération précédente. Et donc, on ne peut pas avoir 50% de cadre dans une société. Hein, donc, si on donne effectivement 50% à 50% d'une classe d'âge le capital humain qui était le privilège de l'élite, on ne fabrique pas un peuple d'aristocrates, on fabrique une démocratie réelle. Et l'enjeu qui est derrière l'enseignement de l'économie, c'est l'enjeu de l'instruction du citoyen. C'est l'enjeu de la réalisation du programme Condorcetien. C'est marrant parce que Condorcet, si on y réfléchit bien, il est non seulement le père de la mathématique sociale, mais aussi d'une certaine conception de l'économie. Et puis tiens, je vais faire un deuxième jeu de mots. Schumpeter nous a appris qu'innover, ce n'était pas inventer, c'était mettre en œuvre des inventions, mettre en pratique des inventions. Ce qui est en cause dans les innovations dans l'enseignement de l'économie, ce n'est pas tant trouver des nouvelles choses, ce n'est pas tant donner la crème de la pointe de ce qui se fait à l'heure actuelle à quelques-uns, mais c'est surtout comment est-ce que, puisque c'est ça la demande sociale, comment est-ce qu'on va donner la connaissance de l'économie aux citoyens dans un système d'enseignement supérieur où l'économie ne va pas seulement avoir à former 40 fois 10 étudiants dans 10 masters d'économie, mais probablement des milliers d'étudiants, puisque ce qu'on nous demande à travers le plan licence d'un côté, la LRU de l'autre, toutes les réformes du système d'enseignement supérieur français, c'est bien de professionnaliser au niveau de l'enseignement supérieur plus de la moitié d'une classe d'âge. Bon, ça, c'est une perspective alors qui est évidemment différente de celle qui était celle de mes collègues, qui était comment former des économistes, mais c'est aussi comment former à l'économie, non pas seulement des économistes, mais des licenciés de sciences humaines et sociales, des licenciés en droit, des licenciés en sciences, bref, comment donner une connaissance de l'économie qui soit pas seulement un vernis, mais qui soit de l'économie... qu'on ne renierait pas comme économiste, mais qui apporte une plus-value, comme le disait Patrick, à des gens qui ont une formation précédente. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a que l'université qui est un modèle à offrir, parce que l'université, finalement, c'est un modèle de formation qui est adossé à la recherche. Alors, évidemment, dans la mesure où on a une massification de la formation universitaire, on ne va pas pouvoir adosser la formation universitaire aux 1% des meilleurs chercheurs. On ne va pas pouvoir donner accès pour tous les étudiants aux 1% des meilleurs chercheurs. Mais la question qui est en cause dans les réformes et dans les transformations de l'enseignement supérieur actuellement, c'est bien de savoir si c'est la recherche qui doit continuer à piloter l'enseignement supérieur, qui doit continuer à piloter au sens de faire les programmes et dispenser l'enseignement, ou si on va devoir aller vers un autre modèle. Les économistes sont probablement les mieux armés pour comprendre l'organisation sociale, non pas seulement des marchés, mais comment l'organisation sociale peut avoir des effets pervers. Et donc, à ce titre, ils sont aussi probablement les mieux armés pour penser les réformes actuelles, en termes, justement, d'organisation sociale. Et ce qui pourrait se produire, comme l'a montré très bien Alan Kierman, c'est que... à travers une espèce de discours généraliste de « on va offrir le meilleur à tout le monde, on va pas sélectionner, on va continuer d'offrir la même université et les mêmes chances à tout le monde, à tous les niveaux », eh bien c'est que, contrairement à ce que Jean-Luc essayait de faire émerger, on ne peut pas construire de progression, puisqu'on a de sélection à aucun niveau, on a de création de cursus à aucun niveau. On n'a pas de mise en place d'une progression dans les cursus universitaires si on n'a pas de peut-être pas de sélection, mais en tout cas de diversification claire et perçue par tout le monde. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est pour les universités d'être capables de se transformer pour continuer à offrir un système de formation qui soit adossé sur la recherche, qui soit professionnalisant, qui, comme système de formation professionnalisant, n'est pas à pallier vis-à-vis des exigences de la recherche, et qui, de ce fait, devra probablement changer en termes de diversité offerte. Je pense que, de ce point de vue, les facultés de sciences économiques et de gestion vont avoir un rôle primordial à jouer, parce que ce sont elles qui doivent piloter l'accès à la connaissance économique pour le plus grand nombre. Parce que si ce n'est pas elles qui le font, ce seront les IAE, ce seront les écoles de commerce. Et c'est pour ça que les difficultés qui sont perçues, aussi bien du point de vue de disjonction entre l'enseignement et la recherche d'un côté, ou en termes d'évolution de l'université, ce sont des difficultés, mais ce sont aussi des enjeux. Et ce sont des enjeux que je pense qu'on doit prendre de manière positive. Parce que l'innovation, ça ne va pas être créer des choses extraordinaires, c'est simplement affirmer aujourd'hui qu'on sait faire et le prouver.
Merci. Quelques remarques de Vladimir Andreev.